cette semaine à Vidéo Terreur, la deuxième émission consacrée à la série Vendredi 13. On va parler de chacun des 12 films, même du 3, qui était bien sûr en 3 dimensions. Bonjour et bienvenue à Vidéo Terreur. Écoutez, deuxième épisode consacré à la série Vendredi 13. Dans celle-ci, on va explorer chacun des 12 films. Et pour faire ça avec moi, comme à chaque semaine, Jimmy Francaire. Salut Jimmy.
Salut Pierre, ça va?
Ça va super bien. Une série de films que j'adore, en fait, Vendredi 13. Donc, c'est un plaisir.
On se gâte, là.
Ouais, on se gâte, là. D'entrer dans chacun des 12 films, de se rappeler certains souvenirs d'enfance, certains plus douloureux que d'autres. Commençons 1980, Friday the 13th, sorti le 9 mai 1980.
Donc, ben oui, le premier avait réalisé là, par Sean Cunningham. C'est le film qui va lancer la série. C'est un film important, je dirais, à tous les niveaux. Faire un petit récapitulatif rapide. Sean Cunningham, bon, qui avait réalisé avec Wes Craven, qui avait été le producteur là, avec Wes Craven sur la dernière maison sur la gauche. Regarde le succès d'Halloween, puis s'est dit, ben moi aussi, là, je veux avoir ma franchise, ce qui n'est pas une franchise à l'époque, mais je veux avoir le film qui coûte peu puis qui rapporte beaucoup. Ouais. Fait qu'on voit beaucoup l'influence d'Halloween là, dans le premier Vendredi 13, puis aussi l'influence de psychose, dépendamment comment vous le voulez. Du fait que, bon, dans le premier, en fait, Jason n'est pas là, c'est sa mère qui est comme hantée un peu par la mémoire là, de son fils qui est mort noyé, d'où l'influence qu'on voit aussi avec Psycho. Là.
Ouais.
Fait que le premier, ben, il va nous amener aussi, je dirais, un nouvel acteur là, qui va avoir une carrière assez intense, Kevin Bacon.
Kevin Bacon, ben oui.
Puis aussi, ça va être le film, bon, je dirais, qui va pas nécessairement lancer la carrière là, de Tom Savini parce qu'il s'était quand même fait, je dirais, reconnaître aussi dans Dawn of the Dead. C'est ouais. Là, je pense qu'on a vu un peu son talent.
Son grand talent, ouais.
Mais à partir de Vendredi 13, là, quand il va faire ce film-là, je pense que c'est là que sa carrière va vraiment là, être. Je dirais que c'est un point marquant là, au niveau de sa carrière.
Ouais.
Puis, ben, en fait, le premier, comme je dis, là, c'est un film qui va avoir une influence quand même importante. C'est le film aussi qui va avoir assez un succès pour qu'on se décide d'en faire une série.
Ben, au début, un deuxième. Je me dis qu'on ne sait pas déjà qu'il va en avoir.
Non, absolument pas. Là, c'est pas ça l'idée. Mais tu sais, ça a été tellement un succès auprès du public que, ben, encore une fois, là, je pense que les considérants sont que, ouais, ben, si on en faisait un autre, est-ce qu'on serait capable d'aller chercher encore autant d'argent? Fait que c'est là un peu là qu'il va lancer la série. Puis peut-être un récapitulatif au niveau aussi des influences. Tu sais, oui, bon, il y a eu Halloween, il y a eu Psycho. Je pense aussi que, tu sais, l'époque du giallo italien là, va aussi influencer là, ce film parce qu'on est quand même dans une structure, tu sais. Faut se rappeler là, qu'à ce moment-là, la structure classique du slasher est plus en création. Là.
Ouais.
Fait qu'on est encore dans des meurtres, puis à se poser la question, tu sais, c'est qui a fait ça, là? Fait qu'on n'a pas nécessairement, tu sais, dans le premier, quand on l'écoute...
Il place les codes.
On n'a pas encore d'idée c'est qui le tueur. Alors que quand on va écouter, mettons, le 3, le 4, le 5, le 6, on sait très bien c'est qui. Là.
On connaît les codes. Passons, parce que là, on va passer rapidement. Hein? On a 25 minutes pour passer 12 films. Vendredi 13, partie 2, sorti le 1er mai 1981. La sac de patates.
Ouais. Donc, ben en fait, là, ce look-là va être beaucoup influencé du film là, The Sun That Dread Sundown, où on a exactement le même genre de look. Puis ça va être aussi bon, les débuts de Steve Miner là, qui va réaliser aussi le troisième.
OK.
Puis là, je pense qu'on est vraiment là. Je dirais c'est à partir du 2 qu'on est dans une. Tu sais, je dirais dans la séquence classique là, du slasher. On est encore aussi dans la continuité là, du personnage féminin fort à la fin qui survit de par son ingéniosité. C'est souvent un peu ça, là, qui se montre un peu plus intelligent que Jason.
Ouais.
Ou qui va réussir, je reste. Mais c'est souvent l'intelligence là, qui va être le facteur un peu déterminant. C'est pour beaucoup, c'est probablement le film préféré. Okay. Malgré le fait là, que, bon, tu sais, je dirais, on n'a pas le look classique. C'est un film qui est beaucoup apprécié parce que, tu sais, le personnage, en fait, là, de Jenny qui va survivre à la fin, c'est un personnage qui a quand même une certaine... On réussit à le rendre très sympathique. On s'y attache. Tu sais, souvent, je dirais, dans Vendredi 13, on avait des personnages là, qui étaient un peu, bon, je dirais, un peu interchangeables, de peu d'intérêt. Mais on réussit à trouver, tu sais, à avoir un groupe qui est attachant. Fait que je pense que c'est un des films forts, là, vraiment, au niveau, là, je dirais, de la réalisation, puis aussi, là, tu sais, de l'histoire. Ouais. Là.
Moi, je pense que les quatre premiers, là, ça fait un beau... OK, passons maintenant à... Oh, un très important, partie 3, sorti le 13 août 1982 et ressorti, hein, il y a une re-release le 13 mai 1983. Qu'est-ce qui s'est passé?
Écoute, probablement un succès encore une fois. Là, on s'est dit, écoute, il y a eu probablement aussi une sortie 3D puis non 3D.
Ouais, c'est
là.
Ça, l'effet 3D.
Bon, puis effectivement, le troisième, bon, il est important dans la franchise à plein de niveaux. C'est là aussi qu'on va avoir le premier vrai look là, qu'on va associer
avec
le masque de gardien de but. C'est intéressant parce que en fait, on ne sait toujours pas exactement ça vient de qui cette idée-là. Quand on a commencé à tourner le troisième, on a amené plein de masques. On ne sait pas encore, on ne sait même pas dans le tournage ça va être quoi le look définitif. Puis dépendamment à qui on demande, il y a beaucoup de gens qui disent « Non, non, c'est mon idée. »
Ah oui, OK.
Fait que ce qui rend ça, tu sais, il y a au moins 3, 4, 5 personnes qui vont dire « C'était moi » ou en jasant un tel. Tu sais, des fois... Hey, on a ce masque-là, on aurait pu prendre lui. Fait qu'il n'y a pas nécessairement, je dirais, de personnes qu'on peut associer vraiment à l'idée là, du masque. Effectivement, tu sais. Bon, puis le troisième va être aussi important au niveau du 3D, parce qu'on sait qu'on a eu une vague de films 3D dans les années 80. On a eu Jaws 3D, Amityville 3D, Jason, Vendredi 13 3D. Non, Halloween n'a pas, il n'y a pas eu 3D.
Ah non, 3D,
non,
excusez.
Puis... En fait, là, c'est avec Vendredi 13 qu'on va tester ces nouvelles caméras-là. Fait que toute la vague qui est venue après.
OK.
Quand les acteurs ont pu, on va les interroger là, sur, appelons ça, le tournage du 3, ben, ce qu'ils vont dire, c'est qu'il y a eu un nombre énorme de prises, pas parce que les acteurs faisaient pas le travail, mais parce que les techniciens... tu sais, par exemple, faut avoir, à un moment donné, il y a une scène, entre autres, il y en a qui jouent du yo-yo. Là.
Ouais.
Tu sais, le nombre de fois qu'on l'a refait juste pour qu'ils descendent au centre de la lentille. Fait que ça a amené beaucoup de difficultés, je dirais, techniques. Mais moi, personnellement, en fait, c'est le premier film que j'ai loué là, d'horreur. Là, fait que j'ai un attachement là, assez particulier au troisième. Mais c'est un autre solide, là, je dirais, Vendredi 13. Là.
Passons maintenant au chapitre final, le 4 sur 12, sorti le 13 avril 1984.
Oui, donc le quatrième, c'est aussi probablement là, un des films forts de la série.
Mais c'est parce que ça met fin au premier storyline là, de ouais. Jason.
Puis oui, parce que tu sais, faut voir quand même que les quatre premiers là, sont vraiment faits comme une espèce de il y a comme un souci de continuité.
Oui, un build-up.
Oui, puis même au niveau esthétique, là, tu sais, on n'a pas l'impression que les réalisateurs ont dit « Moi, je vais essayer de détonner. » Il y a comme une continuité esthétique, il y a une continuité au niveau de l'histoire. Puis bon, ben oui, Tom Savini va revenir là, pour faire les effets spéciaux. Mais Tom Savini va même être une influence au niveau de l'histoire. Parce que bon, on se rappelle avec Corey Feldman, ouais. Le petit garçon là, qui ouais. va affronter, en fait. Ben, c'est intéressant, tu sais, parce que quand je dis affronter Jason, c'est lui et sa sœur qui vont réussir à survivre. Puis encore une fois, c'est souvent, tu sais, les deux figures qu'on pourrait considérer comme les moins menaçantes ou les moins potentiellement, je dirais, en capacité d'opposer à Jason qui vont apparaître. Donc, tu sais, le personnage, en fait, de Tommy là-dedans qui fait des masques là, d'effets spéciaux va être inspiré de Tom Savini.
OK.
Donc, les scénaristes ont un peu, je dirais, inclus l'idée de Tom Savini aussi dans l'histoire. Fait qu'il y a un peu un clin d'œil aussi au gars qui faisait les effets spéciaux. Là. À cette époque-là, l'idée est quand même de finir ça là. En disant, écoute, on va finir sur un. Tu sais, on va finir en force. On en a fait quatre. Il faut se rappeler aussi qu'à l'époque.
Quatre déjà, là.
C'était énorme, là. Ouais. Tu sais, on n'a pas des séries qui durent 10-12 films. Là. C'est encore quelque chose qui est inexistant.
Le plus qu'on a, c'est peut-être Star Wars avec 3, ou
ouais.
Le parrain, le 3 n'est pas encore sorti.
Si on veut remonter là, les Godzilla, là, au Japon, nous avait quand même habitués, mais le public américain ou nord-américain, la plupart ne sont pas conscients de ça. Fait que, tu sais, on veut finir en force, puis on se dit, écoute, on va le tuer d'une façon où il reviendra pas, là. On se rappellera, là, avec la machette à travers la tête. Fait que l'idée, c'était quand même de clore la série en force.
OK. Maintenant, le 22 mars 85, A New Beginning, le 5, A New Beginning, qui est aussi, je dirais, le mal-aimé, là, au niveau de la série Vendredi 13.
Ben, c'est le mal-aimé, encore une fois, là, pour une raison simple, parce que Jason n'y apparaît pas, donc c'est quelqu'un qui reprend un peu l'idée de Jason, bon, se passer pour lui. Les fans n'achètent pas cette idée-là, puis ça va avoir un gros impact sur la série parce que c'est le film là, qui a moins rapporté. Là,
OK. Ça s'est su assez vite, je m'imagine.
En fait, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est le deuxième film qui a le moins rapporté. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que le sixième, c'est vraiment lui qui va rapporter le moins. Pas parce qu'il était de moindre intérêt, mais c'est une réaction au cinquième. Oui, okay. Les cinquièmes, les fans se sentent un peu lésés. Puis rendu au sixième, il se voit comme, regarde, on m'y reprendra pas. Là. Il y a un peu de ça là-dedans. Par contre, moi, je trouve que le cinquième, on pense qu'on l'a mal jugé. Parce que si on regarde quand même là, sur certains éléments, quand je parle de continuité esthétique au niveau de la réalisation, on retrouve là, quand même, je dirais, un peu l'esthétique des quatre autres.
Moi, je pense que je l'ai jamais réécouté depuis 85.
Il
faudrait que je m'y remette.
Oui.
Je vais m'y remettre. 86, le 1er août, Friday the 13th, partie 6, Jason Lives. Là, c'est là où ça devient du fantastique à quelque part, parce que là, il ressuscite. Là, ça devient un zombie, un super zombie. Là,
oui, un super
parce qu'il ferait
zombie.
Tout qu'un massacre dans un film de Romero, lui.
Ouais, ben c'est ça. Puis, écoute, là, je pense que c'est là où les studios commencent à dire, bon, OK, clairement, l'avenue de reprendre Jason sans Jason, c'est pas une option. Là, le 5 nous l'a enseigné. En même temps, on se rend bien compte que les fans en redemandent, puis que encore une fois, il y a une demande, puis encore une fois, c'est le bon vieux l'offre et la demande, si l'économie nous a appris une chose.
Ouais.
Donc, on se dit, bon, mais écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? Faisons-le revenir d'entre les morts. Puis le sixième, il est intéressant qu'on a cet élément-là, je trouve, explicatif. Le réalisateur, c'est un réalisateur qui, je dirais, qui était vraiment très, très attaché au film Universal de vampires, de Frankenstein, de la Hammer. Puis il va vraiment s'inspirer beaucoup de ça. Puis si un coup qu'on voit ça, là, on...
Mais là, quand il ressuscite exactement. Avec l'éclair, c'est vraiment Frankenstein.
C'est vraiment Frankenstein. On est vraiment dans une espèce de tentative aussi, je dirais, de faire des clins d'œil à ce cinéma-là du passé. On va commencer aussi à avoir un peu plus d'humour. L'humour va commencer à arriver clairement là, à partir du 6, où, tu sais, je vais faire un parallèle avec Freddy, où il y a une espèce d'autodérision qui commence à apparaître là, dans le 6.
Ouais, on n'ira pas aussi loin. Hein? Freddy, ils se sont perdus avec le
rock. Oh, oui, clairement. Là,
moi, j'ai l'impression.
Oui, définitivement. Mais... T'sais, le ton est plus léger, puis encore une fois, le ton est plus léger aussi pour des, je pense, pour apaiser un peu le MPAA, qui est la censure, qui était forte, puis qui avait clairement là, la série dans le collimateur. Là.
On va se retrouver maintenant en 88, le 13 mai, pour la sortie du septième film de New Blood.
Oui, donc c'est le début aussi de Kane Hodder, qui va être l'acteur là, qui va jouer là, Jason dans trois films. Le septième aussi, bon, les studios en arrivent à... Tu sais, quand on parlait de l'archétype là, de la femme forte là, dans la série Vendredi 13, là, commence à dire, bon, clairement, ça nous prend une femme, mais est-ce qu'on pourrait la faire, tu sais, comme un peu plus forte encore, en faire presque, je dirais...
Une super-héroïne.
Puis là, on va s'inspirer clairement de Carrie, là, l'histoire de Stephen King, où avec les pouvoirs... pas télépathiques, télékinésiques, bon, merci... Donc, on veut s'inspirer là, justement là, de la télékinésie. Ce personnage-là, on va en faire un peu bon, une femme là, qui va être une jeune fille là, qui va être avec son psychologue là, puis sa mère là, pour en faire une essayer de faire une thérapie. Bon, clairement, ça ira pas bien. Là. Fait que là, on commence, tu sais, je dirais, c'est à partir du 6e qu'on commence à sortir de la formule, puis à partir du 7e, là, on va appeler ça peut-être la phase d'innovation, où les studios se disent, ben là, je peux pas croire qu'on va refaire toujours la même chose, on va commencer à innover.
Ouais.
Le 7e, je dirais, c'est une innovation au niveau des fans qui a quand même été bien reçue. Tu sais, c'est un film qui, de façon générale, passe bien. Le look de Freddy va commencer aussi un peu plus, justement, avec Ken Hodder, qui est un gars assez baraqué. Ouais, oui. Il va aussi beaucoup travailler, je dirais, le non-verbal de Jason, où on va le voir respirer, puis on a un non-verbal un peu plus parlant, je dirais, que dans les autres. Mais on veut en faire une espèce de confrontation à un autre niveau, là, le super zombie, j'aime ça l'idée, contre la femme au pouvoir télékinésique. Fait que le 7e, un peu, là, on est vraiment, tu sais, dans la phase après ça d'innovation où on va essayer de trouver quelque chose qui sort un peu de l'habituel. Là.
L'habituel. Ça nous amène au 28 juillet 89 pour la partie 8. Jason takes Manhattan, mais ne va jamais à Manhattan. Si, boire que lui, là, il est difficile.
Écoute, moi, personnellement, c'est lui que je trouve de moindre intérêt, à plein de niveaux, en fait. Là. Puis c'est un film qui a été problématique aussi, là, pour plein de raisons. Bon, l'idée de base est quand même intéressante. T'sais, on se dit, bon, ben écoute, est-ce qu'on pourrait transporter là, Jason à Manhattan? Bon, tu sais, on part ça à Crystal Lake, puis on part d'un bateau à Crystal Lake qui se rend à New York. Écoute, mais bon, je peux vivre avec ça, tu sais. Sauf que le problème, c'est que le budget était très restreint. Parce qu'encore, là, on se rappellera, comme j'ai dit, que le profit fond au niveau du 5e, le flop du 6e, rendu au 7, on remonte. Mais le studio commence à être plus frileux avec Jason, donc on n'a pas l'ambition de nos moyens, ou on n'a pas les moyens de notre ambition.
Parce que des scènes, justement, là, où il serait dans une foule à détruire tout le monde, on l'a vu ça un peu dans Jason contre Freddy, qu'on parlera tantôt.
Ouais.
Puis c'est magnifique, magnifique, là, au niveau d'un fan de film d'horreur. Là, c'est à ça qu'on s'attend, en fait, quand on dit on va t'amener à Manhattan. Mais écoute, on est loin de là. Hein?
Je pense que 80% du film se passe dans un bateau. Les personnages sont pas agréables, sont insipides, sont de quasi d'aucun intérêt. Puis même, tu sais, en fait, on a tellement pas de budget qu'on en est réduit, en fait, à tourner à Vancouver. Pas que Vancouver, c'est pas une belle ville, mais Vancouver, c'est pas
Manhattan.
ça devient cruellement évident. Les scènes en ville, écoute, c'est... Fait que, tu sais, au final, les fans se sentent complètement lésés. Ont l'impression de s'être fait avoir, ce qui est pas complètement faux. Puis avec du recul, probablement qu'on aurait dû peut-être assumer le moins de budget, avoir quelque chose d'un peu plus conservateur. Mais à vouloir trop, puis sans avoir le budget, ça a donné ce que ça a donné. Puis il faut se rappeler aussi que la ville de New York a aussi poursuivi... la franchise.
Oui.
Parce que si on vous regardez, ben, c'est facile à trouver là, sur Internet. Là, la première campagne, on voit le I Love New York qui est comme découpé là, avec un coup de machette, puis on voit là, Jason, là, le masque là, qui émerge. Puis la ville de New York n'a pas apprécié du tout là, le fait qu'on utilise le I Love New York.
Okay.
On l'a fait enlever des posters pour avoir le poster actuel. Fait qu'il y a eu même, je dirais, une réaction aussi à ce niveau-là. Fait que pour plein de raisons, c'est un film qui est pas très bon, puis qui ça paraît.
Le plus mauvais. Deuxième finale pour Vendredi 13, Jason Goes to Hell, The Final Friday, le 13 août 1993.
Ouais, là, on est dans la phase, là, vraiment, tu sais, je disais, bon, on est parti du classique, on a innové, on est dans de l'innovation au début relativement frileuse. Là,
ça sent la fin pour vrai. D'ailleurs, là, tu sais, ce que je veux dire, c'est que de 80 à 89, on va sortir 8 films. Et là, c'est la première fois que ça prend 4 ans avant qu'on en sorte un autre. Fait que là, clairement, on sent qu'il y a quelque chose.
Ouais, puis on commence aussi à voir là, que, tu sais, Freddy, c'est la figure du moment. Les fans, ils ont le choix entre Jason et Freddy. Ils vont aller voir Freddy. On peut contester ce choix-là, mais le fait est là.
Je le conteste.
mais le fait est là quand même, ouais. Tu sais. L'autre chose aussi significative, c'est. Les 7 premiers appartiennent à Paramount.
Okay.
Puis à partir de Jason Goes to Hell, en fait, c'est pas pour rien hein, qu'on dit Jason Goes to Hell, on dit pas Friday the 13th, partie 9.
Ouais.
Parce que le Friday the 13th, les droits sont restés à Paramount. Ils ont vendu leurs droits de Jason à New Line. La New Line, qui était la compagnie qui faisait aussi Freddy.
OK.
Donc, à partir de ce moment-là, on ne parlera plus de Friday 13 XYZ. On va parler de Jason. Donc, Jason Goes to Hell, c'est parce qu'on avait juste les droits sur Jason.
OK.
Puis en fait, Jason va apparaître, là, ça se calcule en minutes au début. Après ça, ça devient une espèce de créature qui possède les gens.
J'ai l'impression, en fait, que c'est pas un film de Jason.
Non. Fait que là, ça aussi, je pense, ça n'a pas été très, très bien reçu par le public. Il y a quand même un élément intéressant. Si on regarde à la fin, la dernière scène, on va voir le masque de Jason puis le gant de Freddy qui le prend dans le sol.
Ouais.
Puis ça, ça va annoncer quelque chose là, qui... Puis déjà là, hein, ce que ça dit, c'est que déjà à ce moment-là, l'idée d'avoir un film Jason contre Freddy...
Et là, ça va quand même prendre 10 ans.
Oui. Ouais. Puis pendant 10 ans, là, c'est l'idée là, qui est en arrière-plan. Là.
Ça nous amène le 26 avril 2002. J'étais au cinéma pour le voir en grande première. Jason X dans l'espace.
Exactement.
Moi, j'étais un fan de science-fiction, fait que je trouvais que l'idée est géniale. Bon, ça a donné ce que ça a donné.
Ouais. Mais écoute, encore une fois, tu sais...
Des gentils trouvailles quand même pour faire horreur et science-fiction en même temps, là.
Oui. Non. Puis bon, écoute, là, tu sais, encore une fois, pourquoi Jason X et non pas Friday 13 10? Ouais. Pour les raisons de droit, parce qu'encore une fois, c'est un film qui appartenait à New Line à ce moment-là. Ouais. Fait que là, tu sais, bon, on en arrive dans la pure innovation en se disant, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Où,
on est rendu où? On l'envoie dans l'espace. Peut-être anecdote intéressante, là, David Cronenberg va avoir un petit rôle, là, au début. Puis David Cronenberg, bon, le célèbre réalisateur canadien d'horreur, avait dit « Moi, je veux jouer, mais si vous me faites jouer, il faut que je meure. »
Ouais, OK.
Fait qu'il va se faire tuer là, assez rapidement. Écoute, ça, les fans sont partagés. Moi, honnêtement, à partir du moment où on me dit « Écoute, on s'est payé un trip, on l'envoie dans l'espace, j'achète l'idée, là, c'est correct. C'est pas un film qui est ennuyant.
Non. Ouais. Moi, mon analyse personnelle, c'est que le début est très prometteur dans l'espace, etc. Où je trouve qu'on perd, c'est quand on revient dans le camp de vacances avec les filles un peu tout nues, puis etc. Là, je trouve qu'on s'est perdu. On avait la belle occasion de faire de la science-fiction, de l'horreur de science-fiction, puis on revient un peu dans des...
Ah, tu vois, c'est rare qu'on l'ait. Moi, c'est, je te dirais, si j'avais la scène forte, là, ça serait celle-là.
Pour vrai? Ouais. Ah, ouais. Quand il bûche avec le sleeping bag sur les arbres. Là. Non, moi, là, tu vois, j'ai plus...
Moi, je trouvais que c'était une façon aussi de faire un peu de boucler la boucle, de revenir au passé. Puis,
mais je le comprends, mais moi, j'ai pas trouvé ça réussi, mais bon.
Mais bon,
ça
reste des... mais moi, tu vois, à l'arrière, c'est plus la fin là, où ça se transforme un peu en, tu sais, je dirais en alien Jason là, dans le vaisseau spatial. Mais écoute, c'est quand même, je pense, une suite, la plupart vont s'entendre, quand même sympathique avec... On est allé jouer à l'extérieur du cadre, puis...
On a mieux réussi que les deux précédents.
Ben, moi, tant qu'à ça, j'aime autant l'idée de dire on va aller jouer très loin à l'extérieur du cadre que de se cantonner à quelque chose comme à Manhattan, puis on livre rien.
Puis on y va pas. OK, je vois le temps fil, je veux absolument, il nous en reste deux. Faut absolument parler du 15 août 2003. Là aussi, j'étais au cinéma, Jason contre Freddy. Quel grand film! Moi, honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de défauts, ce film.
Non, écoute, ça, c'est un film, je trouve, où on a respecté les fans. On leur a promis
respecté
quelque chose.
Respecté les deux univers, ouais. Tu sais.
Ça a été, oui, puis effectivement, ça, c'était un point. Hein, tu sais, ben, tu dis bien écrit, ça a quand même pris 15 écrivains pour arriver. Bon. Il y a eu 15 versions là, de 15 scénaristes pour y arriver. Il y a 40 réalisateurs qui vont être approchés. Mais ce que je respecte là-dedans, c'est que, tu sais, ce que ça nous dit, c'est que le studio s'est dit... C'est tellement deux figures importantes que quand on va faire quelque chose, il faut que ça donne quelque chose.
Il faut que ça plaise à tout le monde.
Il faut que ça plaise à tout le monde. Le choix du réalisateur est quand même particulier. Là, c'était Ronnie Yu qui nous avait donné le Bride with the White Hair. Il va avouer qu'il n'avait jamais vu ni un Freddy ni un Jason quand il a confié la franchise. Ouais. Considérant ça, je trouve que ça en est sorti vraiment très bien.
En fait, ça a dû être un avantage. Il n'était pas pris dans certains paradigmes, puis il a pu peut-être interpréter des lignes du scénario qui étaient parlantes pour les fans, mais que lui, il ne parlait pas, donc il ne tombait pas dans le pastiche.
Fait qu'exactement. Puis, tu sais, au final, c'est un film qui fonctionne, je veux dire, encore une
Jason
fois.
Jason dans le champ de maïs, dans le party rave, là. Ah, wow, ça, c'est vraiment...
Oh, ouais. Puis, tu sais, on n'est pas empêtré non plus. Tu sais, c'est quand même à l'époque où la censure, je dirais, nous a sacré patience. Fait que ouais. Là, on s'empête pas, là, dans... Tu sais, c'est un film d'horreur, on a du fun, on le fait, je pense qu'on est conscient qu'on va plaire aux fans, que c'est oui. Pour eux autres qu'on le fait. On n'essaie pas de gagner nécessairement un nouveau public. On sait que avec le fanbase de Freddy et Jason, avec ça, on est capable de rentabiliser. Fait qu'on s'amuse, c'est que du plaisir.
Ben moi, je trouve que c'est un peu ce que Star Wars fait depuis qu'ils sont chez Disney. Ils répondent à ce que les fans ont le goût, puis là, les fans sont contents. Quand les fans sont contents, ben, ils engraissent la franchise.
C'est ça. C'est ça. On est à la même place.
Ouais, super. On a un petit instant pour parler de Friday the 13th de 2009, où on a tenté de relancer la franchise le 13 février 2009.
Ouais, ben écoute, pour faire ça rapidement, je pense que l'idée était bonne. On disait, bon, là, on va essayer un peu de revenir peut-être moins à la comédie ou à l'autodérision, peu importe.
On veut revenir aux racines.
C'est un remake qui est quand même réussi. Il n'y a pas de défaut majeur. Sauf que, ultimement,
il est un peu
drabe. Je pense que ça n'a pas réussi à parler. Tu sais, c'est un film, en fait, qui est pour tout le monde puis s'adresse à personne. Dans le sens que les nouveaux fans, je pense, les nouvelles personnes qui regardent ça.
Ils étaient rendus ailleurs.
Les anciens font comme ah, c'est cool, mais en même temps, c'est pas moi le public cible. Ouais. Fait que, je pense que. Il n'y a pas de défaut majeur, mais s'adresse un peu à personne en même temps.
Moi, j'ai l'impression que c'est un projet de studio qui a dit « Ah, ben il y a du cash à faire, tout le monde est en train de faire des remakes, faisons donc ça, puis si ça marche, mais tant mieux. »
Ben, en fait, c'est la même équipe qui nous avait fait le remake de Texas Chainsaw Massacre, qui avait beaucoup mieux fonctionné. Qui était probablement beaucoup mieux réussi aussi. On parle de 2009, là, fait clairement, c'est la plus longue période sans Jason, puis on n'entend rien encore. Là. Fait que, je pense qu'il est en veilleuse pour un petit bout. Là.
Merci, c'est très agréable de se pencher pendant deux épisodes sur ce monstre sacré du cinéma. Hein? On peut pas dire le contraire. Merci, Jimmy, c'était très intéressant. Je me donne le goût de tous les réécouter un à la suite de l'autre durant la même soirée. Merci pour vous d'avoir été des nôtres et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vidéo Terreur. Bonne semaine!